Aujourd'hui, Claude Rioux. Ah, vous êtes une fidèle, Claudine. Et vous avez du mérite, parce que vous venez même par mauvais temps. C'est votre sixième visite. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, j'indique que vous êtes professeur agrégé et que vous conjuguez très habilement l'histoire et l'art. Pour le plus grand plaisir de ceux qui vous écoutent, grâce à vous, nous sommes passés, si vous en souvenez, ceci pour la première fois en 2014, du japonisme à Guernica, à l'expressionnisme allemand, au cubiste, et vous nous avez même fait visiter l'exposition Morozov comme si nous y étions. Aujourd'hui, nous allons découvrir, ou redécouvrir pour certains qui sont peut-être allés, la belle exposition qui a réuni à Paris les œuvres de deux prestigieux musées, le Louvre et le musée Capodimonte, celui qui est à Naples. Claudine, nous vous écoutons et nous vous remercions d'être là.
Merci à vous de cet accueil sympathique, de cette présence technique infaillible et de ce bonjour amical que je reçois des uns et des autres quand je viens à Sarlat. C'est très important pour moi, au-delà de l'histoire de l'art. Alors allons-y. Le Naples à Paris, quel sujet difficile à traiter étant donné l'optique choisie par le Louvre d'une comparaison presque constante entre une toile de Naples et une toile de Paris, ou un bois de Naples et un bois de Paris, qui m'aurait obligé à étendre la conférence, déjà que j'ai des inclinaisons qui vont dans ce sens-là, je me suis dit qu'il valait mieux que je choisisse un autre plan. Et finalement, je me suis centrée sur Naples. Naples à Paris, en effet, c'est un musée totalement inconnu et vous allez comprendre pourquoi on l'a découvert. Il était une fois le fils de la dernière héritière de la célèbre dynastie Farnèse. Cette dynastie Farnèse qui, à l'exemple d'autres, pourquoi pas prenons les Médicis, sinon que les Médicis furent plus célèbres de leur temps. Il était une fois l'héritier d'une de ces dynasties qui fut le dernier à recueillir une prestigieuse collection que lui légua sa mère. Celui-ci, que vous voyez dans un portrait tout à fait conventionnel de souverain, était Charles de Bourbon, roi de Naples, fils d'Élisabeth Farnèse, la dernière héritière de cette prestigieuse collection. Elle n'avait ni frère, ni autre fils que Charles de Bourbon, qui fut choisi, pour d'autres raisons, pour monter sur le trône de cette ville de Naples, partagée entre presque toutes les puissances européennes depuis le XIVe siècle. Le voilà dans un portrait, vous voyez, typique du XVIIIe siècle, où les draperies dignes de Charles le Brun ont été remplacées par un paysage plus ou moins savamment peint, tandis qu'il revêt l'ensemble des insignes de son rang et qu'il porte notamment le bâton du commandement, le casque étant posé sur la table au premier plan. Charles de Bourbon sera Charles III, roi de Naples, à partir de 1734. Il est ainsi non seulement l'héritier d'une fastueuse collection qui va nous occuper au premier chef, mais il est aussi le souverain qui va monter sur le trône de cette ville qui est la troisième ou quatrième ville la plus peuplée d'Europe à l'époque, et qui va prendre la place de Lisbonne, ravagée par un tremblement de terre en 1755, et qui perd la quasi-totalité de ce qui faisait sa célébrité, en tout cas ses habitants. Tandis que Naples, prenant le relais, va se trouver comme l'une de ses capitales sur le grand tour qu'affectionnaient les gentlemen anglais qui passaient leur temps à visiter les différentes capitales du continent européen. Voilà sa mère, représentée là encore dans un portrait officiel par Ranke, qui était un portraitiste connu et apprécié du milieu du XVIIIe siècle. Elisabeth Farnèse nous intéresse au premier chef, nous, Français, non seulement parce qu'elle est la dernière héritière de la collection Farnèse, mais parce qu'elle était la seconde femme de Philippe V, roi d'Espagne, petit-fils de Louis XIV. La succession française sur le trône ayant déclenché notamment la volonté française, ayant déclenché la fameuse guerre d'Espagne. Ne revenons pas sur tout ça, on n'en a pas besoin. En revanche, elle, oui, fut presque reine régente, même si elle n'en avait pas le titre, car son mari était toujours vivant, Philippe V. Deuxième mariage, dont est né ce Charles III, Charles de Bourbon, qui monte sur le trône de Naples. Sitôt dit, sitôt fait, 1734, Charles monte sur le trône de Naples et en même temps hérite d'une collection de plus de 1000 toiles peintes entre le XVe et le XVIIe siècle. Les Farnèse, de père en fils ou en neveu, car d'aucuns furent papes, et on avait plus ou moins le droit de légitimer des rejetons, plus ou moins. Donc, neveu ou fils, peu importe, Charles III va hériter d'une collection rassemblée par les Farnèse, qui, comme toutes les grandes familles d'une noblesse héritée à la pointe de l'épée, les fameux condottieri italiens, vont créer un prestige exceptionnel lié à ces collections qui seront ensuite abritées à l'intérieur des musées. Quand Charles III monte sur le trône de Naples en 1734, il décide de faire ni une ni deux, rapatrier la collection des Farnèse, la collection de tableaux qui était à Rome, à Parme et à Plaisance. Parme et Plaisance, deux duchés appartenant aux États pontificaux sur lesquels avaient régné des Farnèse en tant que pape. C'est ainsi que les plus de 1000 toiles et bois vont rejoindre Naples et pour ce faire être abrités dans un palais qui est d'abord un musée dès cette époque. Le voilà, vous l'avez tous les yeux. Il était sur une colline dominant Naples, Capodimonte, d'où le nom du musée aujourd'hui, le musée Capodimonte, qui fut construit à partir de l'arrivée de Charles III, 1734, et ne fut achevé qu'un siècle plus tard. Il ne fut jamais, à l'époque, résidence royale, à la différence du Louvre, qui fut, dès Philippe Auguste, ou presque, Charles V, allons-y, résidence royale. Grande différence, même si aujourd'hui, les deux abritent des collections prestigieuses. Voici ce Regia di Capodimonte, ce musée, comme on l'appelle aujourd'hui, qui désormais abrite toutes les collections de peinture, des Farnèse, des Bourbons, qui ont continué à acheter des collections à partir de l'extinction des Farnèse, et de ceux qui ont régné sur le musée au cours du XXe siècle, quoique n'ayant pas beaucoup d'argent, il ne faisait qu'essayer de protéger les collections qui étaient en place. En 2015, l'État italien lança un appel d'offres international pour la direction des 20 principaux musées italiens. 7 candidatures françaises furent retenues, parmi lesquelles, pour Capodimonte, celle de Sylvain Bélanger, nous allons en reparler. En attendant, revenons, si vous voulez bien, à l'époque où le palais n'est pas achevé, il est là, qui domine toujours la ville de Naples, sur le fond de laquelle se trouve bien sûr le célèbre panache de fumée qui s'échappe du Vésuve, et l'ensemble de la côte jusqu'à l'île de Capri que vous voyez ici. Le paysagiste du Nouy est un paysagiste français que Caroline Murat, reine de Naples, on va juste en dire un mot rapidement, a fait venir à Naples pour notamment peindre ce type de vue qui est finalement une vue extrêmement soignée, quelles que soient les couleurs plus ou moins réussies, et qui associe un réalisme, un naturalisme précis des paysages à des éléments symboliques comme les statues qui sont ici. Sylvain Bélanger remporte l'appel d'offres pour Capodimonte. C'est amusant son histoire, c'est un grand directeur de musée, Sylvain Bélanger. Il venait des États-Unis où il avait été notamment à Chicago et ailleurs encore, à la tête des musées américains. Et Sylvain Bélanger était un ancien prof de philo qui avait eu un coup de foudre au début, en 1979 ou 1980, quelque chose comme ça, alors qu'il visitait le pauvre petit musée qui était dans la poussière, qui était le musée Capodimonte et que tout le monde ignorait ou presque. Il avait eu le coup de foudre pour ce musée et il a tout fait, bien sûr, pour essayer de remporter l'appel d'offres. Ce qui s'est passé, et ça, cet appel d'offres, comme vous le voyez ici, ne concerne pas seulement... Excusez-moi, je cherche pour ne... Voilà. Les collections qui sont dans le palais, mais l'ensemble du parc de 134 hectares qui avait été dessiné du temps de Charles III, mais dont l'administration était distincte. À l'intérieur de ce parc, il existe encore une série de bâtiments que vous voyez très bien. Il y en avait 19 à l'époque, dont parmi les 19, des bâtiments qui étaient la fabrique de porcelaine que crée Charles III et qui deviendra une fabrique très célèbre. Aujourd'hui, le parc a conservé une partie boisée qui est accessible par quelques chemins et toute la partie qui était divisée entre les différentes activités et en même temps des promenades qui ont été remises au goût du jour. L'ensemble a fait partie d'une opération de restauration spectaculaire qui a commencé en 2015, si l'on peut dire, et qui n'est pas encore tout à fait achevée, et qui va permettre de mettre le musée de Capodimonte au rang des grands musées internationaux. Revenons à la collection Farnèse et prenons un temps à travers des tableaux et quelques sculptures pour évoquer l'histoire de cette collection dont les œuvres sont désormais toutes, bien sûr, visibles aussi bien au Louvre dans le cadre de l'exposition que au musée un petit peu plus tard quand elles y reviendront. Celui qui est le grand responsable de cette collection Farnèse, c'est Paul III. Paul III, pape à partir de 1534, que vous voyez ici 10 ans plus tard, à l'âge de 66 ans. Paul III, tête nue, souvent le pape, comme dans les portraits de Raphaël, par exemple, est avec une petite calotte sur la tête, tandis que dans tous ses portraits officiels, il porte le vêtement rouge, la cape rouge, qui enveloppe leurs épaules. Le pape Paul III était Alexandre Farnèse, qui accède donc à la papauté en 1534, et qui est le pape, si vous voulez, du sac de Rome, pour les historiens qui auraient parmi vous, 1527, mais aussi le pape de Michel-Ange, le jugement dernier, le pape de l'ambassade de France, le palais Farnèse, ô combien célèbre et que certains connaissent bien parmi vous, le pape du concile de Trente qui l'ouvre, le pape qui est en conflit avec Charles Quint, le sac de Rome 1527, ce sont les soudards de Charles Quint. Donc, un de ces papes de la Renaissance européenne, dont le rôle est absolument fondamental en tant que mécène, bien évidemment, mais aussi en tant que représentant d'une autorité religieuse en lutte avec la réforme, par exemple, dans le cadre des événements religieux du XVIe siècle. Regardez cet être humain, bien au-delà du portrait officiel, que fait vivre Titien, le grand peintre des Farnèse. Vous savez qu'il est le peintre de deux grands souverains, Philippe II en Espagne et le pape en Italie. 11 Titiens dans la collection Farnèse, c'est pas mal, c'est le moins qu'on puisse dire, dont celui-ci si célèbre, qui étend ses doigts d'une longueur excessive, mais peu importe, notamment sur sa bourse, qu'il surveille jalousement, si l'on peut dire, tandis que le visage exprime tant de passion intérieure que chacun peut trouver un mot pour décrire ses sentiments. Titien est venu à Rome un an, il va être quasiment au service des Farnèse à partir de 1544 et il repartira en fait en 1546. Alors Paul III, devenu Paul III en accédant au trône pontifical, Paul III fait construire, en demandant à Antonio da San Gallo de construire le célèbre, célébrissime palais Farnèse. Vous savez que c'est aujourd'hui le siège de l'ambassade de France depuis le début du XXe siècle, et qu'à l'intérieur s'y trouvent les admirables fresques, notamment des frères Carracci. Voilà ce grand classicisme du palais italien, tel qu'aujourd'hui vous pouvez le retrouver. Paul III en est à l'origine. Paul III à nouveau, pratiquement la même date, Titien est à Rome complètement. Voyez comme ce peintre d'un grand classicisme de la Renaissance étant un peintre qui, au-delà des apparences, fait vivre les sentiments exprimés ici avec une intelligence extraordinaire du pinceau, mais de l'observation. Voyez les petits-fils légitimés. Je parlais tout à l'heure des petits-fils plus ou moins légitimés des papes. Ce sont deux petits-fils que l'on reconnaît très bien, dont Alexandre, le suivant, que je ne dise pas de bêtises, voilà, ici, qui va être le grand collectionneur après son grand-père, et de l'autre côté, Ottavio, qui esquisse une dernière génuflexion, achevant les saluts officiels que l'on doit au pape. Derrière cette apparence, une courtisanerie extraordinaire qui s'exprime à la recherche du trône pontifical, même si on est les petits-fils du pape. Alors, Titien a bien sûr, à la demande d'Alexandre Farnèse, le petit-fils que vous avez vu debout, devenu cardinal à la demande du pape, à la demande d'Alexandre, Titien va réaliser ce portrait en demi-buste. Vous savez qu'ils sont très fréquents. Ces portraits sont nettement moins chers et ils sont plus rapides à faire. Mais voyez, alors là, l'extrême rigueur avec laquelle le peintre joue d'un volume, le buste, dans les rouges, équilibré par le vert de la draperie, dont on retrouve comme un écho à travers le bleu de l'encolure. Voilà les deux couleurs froides, la couleur chaude partout, jusqu'au petit chapeau que vous voyez là, tandis que le portrait d'Alexandre, le grand cardinal, comme on va l'appeler, nous rappelle ce second grand, très grand collectionneur autour duquel se rassemblent d'éminents hommes de lettres, érudits de toutes sortes. Érudits de toutes sortes, en effet. À partir d'Alexandre, le grand cardinal, l'installation de la famille Farnèse est achevée à Rome, au palais Farnèse, que Alexandre, le grand cardinal, va faire décorer à fresque par quantité d'artistes. Autour de lui se groupent de nombreux érudits, parmi lesquels son secrétaire et son bibliothécaire, que vous voyez ici, Giulio Clovio, portraituré par le Greco. Mais oui, oui, c'est le Greco. Mais un Greco italien encore. Et pas du tout le Greco espagnol que vous apercevrez surgir des toiles petit à petit une fois arrivé à Tolède. À cette époque, il est à Rome, protégé. Il est tout jeune, nous sommes à la fin des années 60. Il est arrivé à Rome, il est protégé par Giulio Clovio, qui va demander au grand cardinal de bien vouloir le prendre à son service. Et non seulement il sera au service du grand cardinal, mais il va aller étudier à Venise avec Titien, dans l'atelier de Titien. Et c'est dans l'atelier de Titien qu'il apprend ce métier que vous voyez là, déjà, dans toute sa splendeur, tandis que la personne représentée, Giulio Clovio, nous montre des miniatures peintes par lui-même, peintre miniaturiste, dans un livre d'heures commandé par le grand cardinal et qui fait partie des collections de la famille Farnèse. Vous voyez, on a du mal à penser à Greco. Et en revanche, on comprend, si on intègre l'idée de l'atelier de Titien, on comprend très bien comment cette influence vénitienne a pu faire du jeune peintre crétois d'icône un peintre d'une maturité qui s'affirme. Regardez le visage, comme il est beau. Une maturité qui s'affirme et qui passe par l'Italie et par Venise. Giulio Clovio, miniaturiste, et le secrétaire du grand cardinal vont collectionner les dessins. Il y a eu, dans le cadre de l'exposition, une pièce réservée aux dessins qui aujourd'hui qui n'a presque plus rien, car les dessins sont fragiles, vous le savez, et n'ont pas pu rester longtemps en vue. Mais je voulais vous montrer un exemple avec cette grande feuille. Elle est grandeur, elle est presque de notre grandeur. Oui. Qui est une pierre noire, ou excusez la faute d'orthographe, fusain avec rehaut de blanc, qui sort un groupe de soldats vus de dos, comme vous le voyez, de Michel-Ange, pour une œuvre, une fresque que nous connaissons de Michel-Ange. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons là le dessin qui va permettre le report sur la surface à peindre du motif dessiné. C'est pourquoi vous observez toutes les feuilles de dessin qui ont été collées les unes à côté des autres à la colle. Une colle, je ne me souviens plus quel est le truc qui est dedans pour faire de la colle, mais peu importe. Vous voyez toutes les feuilles qui, et chacune des feuilles, représente pour la peinture de la fresque une journée de peinture. Donc nous avons là tout un programme de peinture qui donnera naissance à ce groupe de soldats vus de dos, qui est prêt dans le dessin à être posé sur le mur et à être piqueté pour laisser des traces sur l'enduit pour peindre à fresque. Alors, l'entourage du grand cardinal possédait des centaines de dessins que les secrétaires, les peintres, les érudits innombrables qui ont tourné autour d'Alexandre le grand cardinal donneront ensuite dans le cadre d'un rachat pour la collection Farnèse. Cette collection Farnèse, c'est le cœur même du palais, du musée de Capodimonte. Le cœur. Mais les Bourbons, à partir de Charles III, Bourbon, roi de Naples, ceux qui vont lui succéder, qui sont des Bourbons jusqu'au XIXe siècle, vont continuer à faire des achats, et notamment un achat d'une toile de la fin du XVIe siècle, dont vous reconnaissez le peintre, si vous ne connaissez pas en tout cas le sujet, de la parabole des aveugles. Parabole de donner au Christ qui dit qu'à partir du moment où on suit un aveugle, on est sûr de tomber dans le précipice. Le sujet est éminemment lisible d'après ce magnifique, exceptionnel ensemble peint, comme vous le voyez, à l'huile et à tempéra avec la colle, et qui donne cette légèreté à un sujet naturaliste, regardez le paysage, la définition du village, et en même temps, l'attention portée au visage, aux yeux, si l'on peut dire, aveugles et creusés, aux orbites creusées des aveugles. Ce tableau, qui est rentré dans les collections du musée Capodimonte, avait été acheté par les Bourbons au début du XVIIe siècle. Il ne fait pas partie de la collection Farnèse et pour autant, il est au cœur des collections du musée de Capodimonte. Cette collection Farnèse, elle possédait non seulement un millier de toiles, dont la plupart célébrissimes, mais aussi des porcelaines. Je vous ai évoqué la création de la manufacture de porcelaine par Charles III, entre guillemets. Il avait épousé une Marie-Amélie qui était la fille du roi Auguste de Saxe. Ah, peut-être que porcelaine et Saxe, ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Marie-Amélie était la petite fille du fondateur de la manufacture de Meissen. Et on peut comprendre les liens qu'il y a pu y avoir pour être passionné par la porcelaine et la création de la manufacture par Charles III. Mais aussi la passion pour la sculpture. Alors la passion pour la sculpture, c'est surtout notamment le grand cardinal que vous avez vu à plusieurs reprises. Le grand cardinal qui, à la fin du XVIe siècle, va profiter des fouilles faites dans Rome pour acheter certaines œuvres devenues emblématiques de la collection, comme cet Hercule qu'on appelle l'Hercule Farnèse. Cet Hercule Farnèse, comme vous le voyez, est comme la plupart des œuvres datées de la Rome antique, une copie d'une sculpture grecque, d'après Lysippe, une copie de Glycon, car le copieur, le copiste a signé, donc nous savons son nom, copie de Glycon, cet Hercule qu'on a appelé désormais l'Hercule Farnèse, qui fait plus de 3 mètres de haut, qui est un marbre qui n'a pas été trouvé en l'état, dont on a trouvé la tête à un endroit, le corps à un autre et les jambes à un troisième. Il a fallu progressivement cette recherche et cette étude qui a permis d'affirmer le positionnement des différentes parties du corps. Certaines œuvres que je vous présente ne sont pas présentées au Louvre, mais je les ai ajoutées pour des raisons liées aux propos que je tiens. Sculpture, peinture, objets d'art, bien sûr. Parmi les objets d'art, cette célèbre cassette dont on dit qu'elle est aussi célèbre que la Salière de Benvenuto Cellini pour le roi François Ier. En tout cas, je l'ai regardée à plusieurs reprises puisqu'elle est venue au Louvre. Et le travail effectué et la qualité de l'œuvre sont absolument fascinants. Le travail effectué à partir de l'argent doré que vous voyez ici abondamment utilisé pour la structure de cette cassette qui repose sur des pieds eux-mêmes abondamment sculptés, tandis que la cassette est ornée sur les deux côtés de cristal de roche ciselé, dont vous voyez les cristaux de roche et dont vous devinez les ciselures réalisées d'après des dessins de peintres de la Renaissance. À l'intérieur, ensuite, vous avez bien sûr, ornant les cristaux de roche sur chaque côté, quelques éléments de lapis lazuli bleu, qui donne cette jolie tonalité à l'ensemble de la cassette. On savait de tout temps qu'il y avait dans la cassette quelque chose de précieux. On pense aujourd'hui qu'il se serait agi à l'époque du petit livre d'heures que montre Giulio Clovio avec sa main dans le portrait de Gréco. On pense que ce serait ce petit livre de miniatures qui aurait été enfermé à l'intérieur de la cassette. Alors, continuons encore un petit morceau d'histoire avant de nous promener dans quelques-unes des salles de peinture. Le roi Charles III, qui était Charles de Bourbon, devenu Charles III, roi de Naples en 1734, devra quitter Naples en 1759 après que son demi-frère qui régnait en Espagne soit mort. Il revient donc en Espagne et il deviendra ce roi très populaire espagnol dont les portraits vous diraient peut-être quelque chose si je vous dis qu'il avait un très long nez et que tous les portraitistes se sont plus ou moins amusés à représenter ce très long nez qui nous permet de le reconnaître à peu près partout. Vous voyez qu'il s'agit d'un paysagiste réalisant ces marines qu'on adorait, notamment les Anglais, qui adoraient tous les paysages marins que l'on envoyait à Londres et qui étaient commandés par de riches seigneurs britanniques. Voilà ici, non pas pour Londres, mais à la demande de la monarchie napolitaine, un des deux tableaux représentant le départ de Charles de Bourbon pour l'Espagne, vu de la terre, où vous retrouvez le Vésuve à gauche, Capri à droite, comme on a pu l'imaginer tout à l'heure dans un autre paysage que je vous ai montré. Alors, il nous manque de rappeler la porcelaine. Je vous ai parlé de la création de la manufacture par Charles III au XVIIIe siècle et de ses liens familiaux avec l'origine même de la porcelaine et du kaolin utilisé en Saxe et qui était dans la petite ville de Meissen. Quand Charles III est parti en 1759, où il a rejoint Madrid, il a régné en Espagne jusque dans les années 1780, il a refusé à son fils, auquel il avait laissé le trône de Naples, il a refusé de lui laisser tous les artisans de la fabrique. Il est parti avec tous les artisans. Et il a ramené à Madrid des gens au savoir-faire époustouflant, tandis que son fils, Ferdinand VI, devra reconstituer une manufacture dont la célébrité sera aussi celle du musée, mais qui ne fait pas partie de la collection Farnèse. Là, nous sommes au-delà de la collection Farnèse, puisque nous sommes au XVIIIe siècle. Rappelez-vous, Elisabeth Farnèse donne la collection Farnèse à son fils Charles III, 1734. Après, c'est autre chose. Et voilà, pour vous donner un exemple de la virtuosité à laquelle arrivent les réalisateurs de ces éléments de porcelaine napolitaine qui sont désormais visibles, cette chute des géants qui est un élément d'une histoire mythologique sur laquelle je m'appesantirai pas, avec Jupiter en haut, que vous voyez brandissant la foudre. Ce qui est intéressant, c'est non seulement l'étude de chacun des personnages qui a nécessité d'innombrables dessins et d'esquisses avant d'arriver à réaliser cette pyramide humaine, mais aussi le fait que ce soit un biscuit de porcelaine sans kaolin, et qu'il y ait là tout un savoir-faire qui va faire de Naples, qui va renforcer le statut de cette ville qui devient une des grandes villes, très grandes villes européennes. Je vous rappelle que le roi Charles III est un peu le style des souverains des Lumières qui règnent sur plusieurs états dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qu'il va être un créateur de palais, le palais de Caserte, le palais de Portici, qui va créer le fameux théâtre San Carlo de Naples, et que non seulement il va faire construire l'édifice du palais pour abriter les collections, mais aussi qu'il va donc multiplier les constructions et les initiatives dans le domaine de l'histoire de l'art et de l'art tout court. Alors, il faut fermer la porte de toute cette histoire, mais qui est suffisamment compliqué pour que le musée de Capodimonte ait connu quantité d'événements au cours du XIXe siècle, et notamment l'arrivée de Napoléon et des Français qui s'emparent du royaume de Naples, qui destituent les Bourbons, qui vont se réfugier en Sicile. Ils reviendront après. Mais sur le trône duquel va d'abord s'installer Joseph de Naples, puis ensuite Murat, que vous voyez ici représenté à cheval par le peintre Gros, qui accompagne Murat dans ses batailles, si l'on peut dire, aussi bien à Aboukir que dans la campagne de Russie, et que vous voyez ici représenté comme roi de Naples, Naples étant figuré, vous le voyez tout de suite à travers, notamment à droite cette fois-ci, le Vésuve, que vous retrouvez ici, mais aussi comme le célèbre vainqueur, notamment de la bataille d'Aboukir, que vous voyez évoqué ici, à travers le sabre, qui est un sabre oriental, si l'on peut dire, tandis que quantité de détails pourraient nous amuser si nous en avions le temps. Voilà celui qui, en 1808, doit monter sur le trône de Naples et s'installe, eh ben, à Capodimonte, au milieu des tableaux, tandis que celle qui va adorer, le modifier, le transformer, n'est autre que sa femme, Caroline Bonaparte, devenue Murat. Caroline Murat, que vous voyez ici dans un portrait de commande, commandé à Ingres. Vous savez que Ingres est allé chercher la clientèle en Russie. Au moment de la Révolution, il avait plus grand-chose à faire pendant plusieurs années à Paris, et qu'il a été un portraitiste malheureux, puisqu'il voulait être un peintre d'histoire, mais qu'il était follement doué comme portraitiste, et qu'il est devenu un des grands portraitistes de la noblesse italienne. C'est dans ce cadre que Caroline Bonaparte, devenue Murat, très intéressée par tous les problèmes de décoration, lui a commandé ce très célèbre portrait, qui a disparu pendant longtemps, qui a été retrouvé, et je ne sais pas dans quelle collection privée il est. Il est dans une collection privée, et pas dans un musée public, et on ne sait pas où. Certains le savent. Alors vous retrouvez bien sûr encore le Vésuve, et vous voyez ce soin apporté à la représentation des étoffes qu'adorait Ingres depuis le début jusqu'à la fin de sa vie, ça a été un passionné du rendu des étoffes. Depuis le tapis, en passant par les rideaux, le tapis qui couvre la table, la robe, la petite plume de son casque, vous voyez que c'est un peintre amoureux du rendu des étoffes. Alors, eh bien voilà, nous avons fermé la porte, ou presque. Je vous dirai à la fin ce qu'il est advenu de Capodimonte au XIXe et XXe siècle avant 2015. Revenons aux collections Farnèse et Bourbon, et surtout Farnèse. Je me suis centrée sur cet aspect-là des collections pour faire un tour de ce que Sylvain Bélanger et Madame Descartes ont décidé d'amener à Paris dans le cadre de cette exposition qui dure depuis plusieurs mois et qui va s'achever et qui a permis en effet à beaucoup de passionnés d'histoire de l'art de comparer les collections. Ça nous aurait pris trop de temps. Laissez-moi vous proposer une promenade dans ces tableaux venus de Naples et qui vous permettent de les ajouter à votre connaissance du Louvre. Au Louvre, nous n'avons pas de Masaccio. Nous n'avons pas de ce peintre, rien, de ce peintre dont on dit aujourd'hui qu'il est le grand créateur, entre guillemets, d'une peinture renaissance qui commence à s'exprimer. Excusez-moi, je cherche. Voilà. Qui commence à s'exprimer à travers la simplicité des volumes. Regardez la Vierge. Regardez Saint Jean. À travers ces volumes nets qui ici se détachent sur un fond d'or voulu par le commanditaire. Alors qu'on aurait pu penser que ces beaux volumes se détacheraient sur un paysage. Non pas. Tandis que Véronique, au centre, exprime avec une intensité qui est celle des gestes le chagrin que nous voyons sur chacun des personnages, une expressivité tellement nouvelle que le peintre apporte en même temps que cette troisième dimension. Enfin, ce tableau qui fait partie d'un polyptyque était sur la partie supérieure centrale du polyptyque. Imaginez-vous dessous, et si vous êtes dessous, vous comprendrez pourquoi le Christ n'a pas de cou. Parce que vous ne le voyez pas, le coup. Et donc le peintre nous fait comprendre qu'il est en train de créer cet espace fictif qui sera l'espace des peintres de la Renaissance à trois dimensions, en même temps que chacun des personnages acquiert un volume important. Ce volume, le voilà. Alors on le connaît très peu en France, Colantonio. Colantonio est un peintre napolitain, un vrai de vrai napolitain. Et c'était le maître de... Oh, zut, excusez-moi, le nom m'échappe, ça me reviendra tout à l'heure. Colantonio est un peintre qui peint, comme vous l'avez vu, au XVe siècle, au milieu du XVe siècle, et qui a un pied encore dans la nappe du roi René d'Anjou. Vous connaissez le roi René à Aix-en-Provence. Ben, le roi René, qui fait partie de la famille des Anjou, a régné sur Naples et sa région. Et il vient d'en partir, d'être chassé, tandis qu'arrive à sa place le royaume d'Aragon. Et entre la Provence du roi René, matinée d'influence flamande, et les influences espagnoles de l'Aragon, matinée de quelques influences musulmanes, rappelez-vous l'occupation de l'Espagne, eh bien nous avons ce naturalisme impressionnant d'un Saint Jérôme, monumental, bien assis, bien campé, tandis qu'il est en train d'enlever l'épine de la patte du lion. Élément de son histoire que tout le monde connaît, qui nous permet de le reconnaître, un Saint Jérôme à la Renaissance, milieu du XVe siècle, qui est un érudit toujours pour les peintres. C'est la raison pour laquelle vous le voyez dans sa bibliothèque. Et regardez tous les détails, et vous verrez même, non, on ne le voit pas très bien là, je voudrais vous montrer, mais là, il y a une souris. Il y a une, il y a une petite souris qui sort dans le tableau lui-même, c'est absolument merveilleux. Donc il y a tous les détails, et qui sont aussi bien, vous voyez, ceux de l'érudit à travers tous les livres, et le désordre des livres, à travers le chapeau de cardinal. Saint Jérôme avait été soi-disant fait cardinal, tout ça, ça fait partie de sa légende. Et là, la petite souris qui est là, qui est très charmante, que vous retrouverez si vous faites un petit tour à Paris avant que ça ferme. Alors ça, c'est un des plus beaux tableaux. Ah, on en a quelques-uns de Bellini, Giovanni Bellini, la Venise de la fin du XVe siècle et du début du XVIe. On en a quelques-uns, des tableaux de Chevalet, on n'en a aucun qui soit grand comme ça et qui soit aussi somptueux. Giovanni Bellini, vous savez que sa sœur avait épousé Mantegna. Et que Mantegna, le grand peintre, le grand dessinateur austère, féru d'antiquité romaine et grecque, ce peintre très très célèbre, avait influencé le jeune Giovanni Bellini, tant et si bien que, à la limite, Bellini ne trouvait pas sa voix, il ne trouvait pas son savoir-faire. Mais là, ça y est, il s'est débarrassé de Mantegna. Et tant mieux pour Bellini, car vous voyez le Bellini qui apparaît dans ce tableau intitulé « La Transfiguration », qui rappelle un événement où le Christ transfiguré apparaît au prophète et aux disciples terrorisés qui tombent à ses pieds, tandis qu'une voix retentit disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Épisode que vous retrouverez dans les évangiles et qui est pris par Giovanni Bellini en situant cette scène pour des chrétiens impressionnante, sacrée, dans un paysage qui est le paysage de la Vénétie, avec les Alpes vénitiennes qui sont tout de suite là, ou presque, quand on sort de Venise. Tandis que il a pris soin de dessiner des bâtiments qu'on reconnaît, qui sont à Ravenne. Et c'est ainsi que Giovanni Bellini va baigner de lumière, en utilisant l'huile, auquel il a eu accès par l'arrivée d'Antonello da Messine, qui était l'élève de Colantonio, dont on a vu un tableau, ce Antonello da Messine, qui est allé chercher en Flandre ses recettes à base d'huile qui vont permettre d'alléger et de faire briller la luminosité des couleurs. Alors, regardez le soin, la recherche des couleurs, tandis que le Christ majestueux, imposant, affirme le sacré de son caractère dans le blanc, les autres, les prophètes ou les disciples, expriment plusieurs sentiments devant cette manifestation qui se déroule dans un des plus merveilleux paysages de la Vénétie, dans lesquels tous les détails sont reconnaissables. Regardez notamment les plantes. Regardez les ficelles pour faire un brelage, là, pour tenir le pilier de cette petite barrière. Et regardez les symboles qu'il peut y avoir entre l'arbre mort ici et l'arbre vivant là, tandis que chacun des détails peut être l'objet d'une admiration presque sans fin. C'est un tableau irrésistible. Alors restons dans cette époque, cette belle époque, moi je l'aime beaucoup, beaucoup, qui est cette époque où on expérimente de partout ce qui va devenir la grande peinture européenne ensuite, celle du XVe et XVIe siècle débutant, avec, là encore, un homme qu'on connaît très mal et qu'on n'a pas du tout, on n'a aucun tableau au Louvre, Jacopo de Barbari. Jacopo de Barbari est un dessinateur extraordinaire, un homme qui fait des gravures superbes et qui de temps en temps peint un tableau. Et ce tableau a été sûrement peint à la demande du professeur. S'il y a des professeurs parmi vous dans la salle, vous voyez ce professeur ici qui est un moine et qui est Luca Pacioli, et en compagnie d'un de ses élèves. Ce professeur est sans nul doute un professeur de géométrie, étant donné le traité qu'il tient ici, et les figures, et les extraordinaires volumes à plus de 12 côtés, 12 ici, dodécaèdres. Quant à celui-ci, je ne me souviens plus comment on l'appelle, tellement il en a, qui sont le résumé de la recherche mathématiques et ici géométriques, qui s'élaboraient à la fin du XVe siècle et qui étaient notamment le fait de ces savants comme Luca Pacioli, que vous voyez représenté ici. Son élève, à l'élégance aristocratique d'un jeune entre Venise et Ferrare, il en a la coiffure bouclée, il en a la tenue, la veste de fourrure. Nous nous retrouvons dans cette aristocratie éduquée, instruite, et dont les aspirations intellectuelles ont souvent fasciné les peintres. Alors, restons dans l'aristocratie, avec un évêque. Le portrait de l'évêque de Rossi, da Rossi, qui fut évêque dans les environs de Venise. Vous me pardonnerez de ne plus avoir en tête la petite ville où il était évêque, et qui commanda ce portrait à un peintre étrange. On a eu droit à une exposition à Paris, mais il y a très longtemps. Et on a un loto, je dirais presque minable au Louvre. Donc là encore, c'est merveilleux cette exposition, parce qu'elle nous donne l'occasion de voir des peintres qu'on voit très très peu. Alors Lorenzo Lotto, vous savez que c'est un contemporain de Titien, mais que Titien a envahi le marché, si j'ose dire, et qu'il n'y a plus de place pour Lotto à Venise. Alors il va chercher ailleurs, et notamment, protégé par l'évêque d'Arossi, il va pouvoir trouver des commandes dans les villes, à Bergame notamment, entourant Venise, et qui lui permettront de vivre. Alors, cet évêque est impressionnant, non seulement à côté du rose étonnant de sa chasuble, mais qui se détache sur ce vert, qui est un peu un coup de poing, et qui donne au visage une couleur qui hésite entre le rose des joues, le bleu pâle des yeux, dans un personnage qui paraît affirmé, presque intimidant, qui était caché par un tableau qui le couvrait, comme c'était la mode dans certains cas. Le tableau qu'il couvre, il est à Washington. Je me suis dit qu'on n'avait pas le temps de le voir. Donc, laissons-le à Washington. Pour continuer notre promenade, avec des peintres qu'on connaît très peu au Louvre, c'est la raison pour laquelle ils ont été choisis, comme le peintre Le Rosso. Alors, on a quand même deux ou trois tableaux très célèbres du Rosso. Le Rosso, je vous rappelle que c'est un peintre italien de la Renaissance qui est venu à Fontainebleau, qui a travaillé, qui est mort à Fontainebleau, au service du roi François Ier et Henri II, et dont les fresques et dont les réalisations à Fontainebleau ont été nombreuses. On voit ici ce portrait de jeune homme qui évoque tout à fait l'évolution de cette peinture. Regardez comme on est loin de l'évêque. Regardez comme on est loin de Luca Pacioli. On est très loin de Saint Jérôme. On est avec un jeune homme indécis, légèrement efféminé, dont l'habit très recherché se fond avec le décor environnant, dont la ligne allongée à l'extrême se termine par des mains qui n'en finissent plus, l'une d'entre elles n'étant pas achevée, la main droite. Donc, nous sommes là dans une peinture qui se pose suffisamment de questions pour qu'on voit tout de suite l'évolution. Cette peinture qui va aller, vous le savez, vers ce qu'on appelle le maniérisme. Et le voilà. Alors là, on l'a en pleine figure à travers l'œuvre d'un très grand peintre de l'Italie du Nord, le Parmesan. Le musée de Capodimonte nous a confié quelques tableaux célébrissimes, comme celui-ci, de San Galeazzo San Vitale, qui date de 1524. Homme des armes, bien évidemment. Vous voyez combien les armes sont présentes comme un attribut du jeune homme, habillé de façon recherchée, comme les princes de cette Renaissance qui adorent multiplier les manches avec les chemises sous-jacentes et qui recherchent tous les raffinements possibles et imaginables, que ce soit dans la représentation des cheveux, que ce soit dans celle de la barbe, dans celle de du chapeau qui orne la tête, comme dans tous les détails que vous allez voir évoqués dans ces gros plans. Cette recherche qui élabore des figures masculines souvent assez indécises, parfois efféminées, tandis que le métier des armes s'affirme à travers la massue et le casque, avec une présence du pinceau aussi forte que celle qui dessine et peint les feuilles. Détails qui permettent des identifications possibles, comme celle de la bague sur le petit doigt de la main gauche et de la pièce de monnaie que présente le jeune homme. Tout aussi recherché, tout aussi compliqué, ce portrait d'une jeune femme dont on ne sait l'identité et que pour le besoin on a nommé Ante, Antea, et dont vous voyez qu'elle est comme un symbole de ce raffinement extrême qui aboutit parfois à un manque de force et de présence dans le tableau. Vous voyez la zibeline qui est peinte de telle sorte qu'on voit jusqu'à la tête de l'animal, que la jeune femme en digne aristocrate porte sur l'épaule, la soutenant de sa main gauche, de sa main droite gantée, tandis qu'en digne aristocrate, la main gauche ne l'est pas, puisque l'une des deux mains n'est jamais gantée comme un symbole de l'aristocratie. Alors, l'un des plus célèbres, peut-être l'un des plus connus, est ce Titien, dont nous avons plusieurs copies faites par le peintre, qui se trouve à Madrid, qui se trouve aux États-Unis. Nous en avons 4, je crois, 5 en tout, avec celui-ci peint à Rome, à la demande du grand cardinal Alexandre. Cardinal, certes, mais aimant les jolies femmes, il avait demandé à Titien de peindre ce tableau pour pouvoir l'exposer dans sa chambre. Alors, il fut dans sa chambre au palais Farnèse, mais lorsque les nazis sont descendus avant l'accord avec Mussolini, Göring a demandé à ce qu'on lui apporte la Danaé qu'il a mis dans sa chambre. Avant que les nazis ne cache une série de chefs-d'œuvre, dont celui-ci, dans les fameuses mines de sel de Salzbourg, où il sera retrouvé, restauré et ramené en Italie en 1947, je crois. Depuis, il est gardé attentivement au palais, au musée de Capodimonte. Danaé, vous la connaissez, fille du roi Acrisios, qui n'a qu'une peur, c'est que son petit-fils le tue. Car en effet, la Pitié a raconté que Danaé aurait un enfant. Alors pour qu'elle n'ait pas d'enfant, il l'emprisonne. Il l'enferme. Mais Jupiter est plus malin que ça, il a plus d'un tour dans son sac. Et vous savez très bien ce qu'il va faire. Le voilà. Sous forme de pluie d'or, Jupiter va féconder Danaé. Et le fils de Danaé tuera son grand-père. Laissons les histoires mythologiques pour revenir à l'un des plus beaux nus, tant il laisse de côté les a priori de toutes sortes pour un naturalisme dans le rendu de la chair contre le drap. Regardez. Dans la mesure où il s'attarde sur ce visage rêveur et doux, dont on dit qu'il aurait été celui de la maîtresse du grand cardinal, à ce moment-là, ça s'impose, elle est dans sa chambre. Tandis que le regard s'attarde vers la pluie d'or, l'amant, et que la scène d'amour est bien sûr accompagnée de ce Cupidon, fils de Vénus et représentation de l'amour lui-même, qui nous permet très rapidement de comprendre la scène. Quelques copies ont été faites par Titien, et vous savez que les deux grands souverains qui ont multiplié les Titiens chez eux, qui sont Philippe II et le grand cardinal, ont multiplié ces scènes d'un très grand classicisme, un immense classicisme, sans aucune sécheresse, et avec une liberté du pinceau qui a fait de Titien le grand peintre des collectionneurs au XVIe siècle. Alors, le grand cardinal continue, et vous savez que dans son environnement se trouvent des secrétaires, des peintres, dont on a évoqué le rôle à partir de Gréco, qui vient travailler pour le grand cardinal, et surtout de leur rôle, ces secrétaires et bibliothécaires, dans le cadre de la définition du programme iconographique du décor du palais Farnèse. Ce fameux palais Farnèse qui va être achevé alors que le grand cardinal a une cinquantaine d'années ou quelque chose comme ça, alors que Paul III est mort, va être décoré à fresque par une pléiade d'artistes, parmi lesquels deux fondamentaux qui sont frères, enfin l'un et l'autre sont cousins germains, qui sont Hannibal, notamment Hannibal Caras, celui qui va décorer à fresque toute la grande galerie et la chambre du grand cardinal. Eh bien, Hannibal Caras, vous l'avez là, je vous montre deux tableaux, parce que pensez qui c'est qui va arriver en France en... je cherche la date exacte. Bon, c'est à la fin des années 1630. C'est Mazarin. Et vous savez que Mazarin va être le parrain de Louis XIV. Que Mazarin va regarder beaucoup Anne d'Autriche. Pour le reste, j'en sais rien, et ça m'est égal. Mais Mazarin va apporter à son filleul le goût, l'érudition pour l'art italien. Tandis que sa mère, Anne d'Autriche, va apporter à Louis XIV tout le goût espagnol. Vous voyez un petit peu tout ce que Louis XIV a pu recueillir de ces deux personnes. Et notamment dans la définition d'un art français, qui va s'incarner dans l'Académie de peinture et de sculpture, etc., etc., et bien les frères Caras, les cousins Caras, vont jouer un rôle fondamental. Mazarin va être un des tenants de ce classicisme qui ira vers le baroque plus tard, qui s'affirme en Italie, au lendemain du maniérisme que nous avons vu avec notamment le Rosso, comme vous l'avez vu. Donc, voilà des œuvres comme celles que l'on trouve dans le palais Farnèse, qui faisaient partie de la collection Farnèse et que le grand cardinal va acheter beaucoup pour les mettre dans sa collection. Hercule à la croisée des chemins, je vous rappelle que Hercule était le personnage emblématique du grand cardinal, comme une sorte de double du grand cardinal, et que ce thème est un thème extrêmement classique, entre la vertu et le vice, ne cherchez pas, vous les trouvez tout de suite, de ce côté-là, ce sont des représentations tout à fait banales. En revanche, vous voyez comment la Renaissance a pu donner naissance à Bologne, puisqu'ils sont de Bologne tous les deux, et que c'est à Bologne que va se créer une école d'art qu'on appellera l'Académie, un jour, donc la définition de l'Académie, comment va se créer à Bologne un art qui rassemble toutes ces conquêtes de la Renaissance et qui échappe au maniérisme pour s'affirmer à travers une grande peinture qui va utiliser la mythologie ou l'histoire religieuse. Et ici, Hercule à la croisée des chemins, 1596. Vous voyez la vertu et le vice à chacun de choisir, mais on est en plein décor du palais Farnèse. Alors, il va évoluer, parce que là, c'est 1596, il va évoluer et son métier va se raffiner beaucoup. Vous voyez ici, et nous avons au Louvre, une Pietà de Annibal Carrache, qui est une sorte d'évocation de celle-ci. Donc, celle-ci est intéressante pour cela, elle date de la fin du XVIe siècle, et vous voyez comment... la représentation des personnages dans ce thème du Christ mort sur les genoux de sa mère, qui a été exploré à partir du XIVe siècle par les peintres, qu'ils ont inventé, ça ne se trouve nulle part dans les évangiles, et pour autant, le thème va se développer beaucoup. Et vous voyez comment quelque chose du raffinement du maniérisme flotte encore dans l'air, en même temps que la définition du nu, des personnages, la position dans l'espace, tout ceci fait montre d'une maîtrise qui sera au cœur du classicisme tel qu'on le verra dans les collections farnèses. Alors comme on est à Naples, les collections des Bourbons éventuellement, qui vont continuer, mais qui seront plus celles Farnèse amené à Naples à partir de 1734 et qui vont être abrités dans le Museo di Capodimonte, le palais à l'époque, on l'appelle, vont être à l'origine d'une petite école. Naples n'a jamais été un grand lieu de peinture, mais une petite école dont vous verrez quelques représentants et notamment qui hésite entre le classicisme des Carrache et puis un baroque qui dit plus ou moins son nom, tandis que le Caravage qui est mort à côté de Naples et qui a passé 2 ans à Naples va imprimer sa marque. Donc Naples va être une sorte de rendez-vous d'une peinture du XVIIe, XVIIIe siècle que je voudrais vous montrer à travers quelques exemples de Guido Reni qui est dans l'orbite des frères Carrache et qui pour autant... affirme un talent tout à fait différent. Voici un thème que vous connaissez peut-être, qui est le thème d'Atalante et Hippomène. Atalante est une jeune femme qui veut rester vierge à tout prix et les assauts des jeunes gens, elle n'en veut pas. Et elle trouve un moyen, elle va courir plus vite que tous et tous ceux qui n'arrivent pas à courir autant qu'elle, elle les tue. C'est une façon de s'en débarrasser, certes, assez rapide. Et voilà que Hippomène, eh ben, il va aller voir Vénus, il va lui dire « Je suis follement amoureux d'Atalante, il faut absolument que je la dépasse. » Et Vénus lui donne les 3 pommes d'or et lui dit « Tu en jettes une, puis une autre, puis une autre. Elle va se pencher pour les ramasser, tu vas la dépasser. » Voilà. Donc, nous sommes là, dans ces... Vous voyez qu'elle a déjà une pomme dans la main, elle est en train de ramasser la seconde, et la troisième, il l'a encore et on ne la voit pas. Regardez, la conception est d'une élégance gracieuse, très baroque, de ce côté-là, faite d'obliques, très recherchée, très maniérée, pas maniériste du tout, mais maniérée, qui insiste sur la longueur des obliques, regardez cette jambe, qui n'en finit pas, tandis que le rendu du corps du jeune homme est très très élégant, vous allez voir de près, et voilà la même chose pour le bras qui est allongé à l'extrême, comme vous voyez, et qui donne donc à cette scène une légèreté que d'autres peintres n'auraient pas pu traduire, parce qu'ils auraient rassemblé les anatomies de façon beaucoup plus épaisse. Alors, je l'ai évoqué, le Caravage va passer 2 ans et demi à Naples entre 1706 et 1708. Il fuit Rome où il a assassiné dans un duel un type et il est recherché pour cet assassinat. Il fuit Rome et il arrive à Naples. Et à Naples, il va peindre un peu. Et à Naples, il y a 3 tableaux du Caravage. Aucun n'ont été dans les collections, bien sûr, Farnèse, ni Bourbon. Ce n'est que plus tard que les Caravages qui sont à Naples ont été achetés. et figure désormais dans la collection. Peut-être le plus célèbre, le plus époustouflant quand on le regarde tranquillement. Et celui-ci, le Christ à la colonne, dit la flagellation, qui, vous voyez, est en plein au milieu du séjour de Caravage à Rome, à Naples, qui mourra en 1609. Et deux Caravages ont été conservés à Naples, dont celui-ci qui est dans les collections du musée de Capodimonte. Regardez par rapport à Guido Reni, regardez par rapport au Carrache, ce clair-obscur impressionnant. Ce clair-obscur qui fait surgir les corps, et parmi les corps, le traitement différent accordé au bourreau et à la victime, au Christ. Regardez le corps du Christ comme c'est celui d'un réalisme émouvant. Tant nous sommes proches du corps de notre ami, de notre mari, etc. D'autant plus que la manipulation de la lumière par l'artiste souligne ce corps sans aucune brutalité. Alors, à côté de ce traitement très lumineux, très clair, il est vrai que Caravage a affectionné des rendus plus sombres pour les bourreaux qui se trouvent de part et d'autre, tandis qu'un troisième se penche pour réaliser un fouet pour pouvoir le fouetter. La scène profondément émouvante est baignée dans ce jeu d'ombre et de lumière qui lui donne toute son intensité à travers les personnages qui apparaissent. Est-ce du baroque? Est-ce du classique? Caravage opte sur une façon complètement nouvelle de travailler, qui est celle de ce clair-obscur qui impressionnera tant ceux qui vont le voir et voir ses tableaux. Parmi lesquels cette jeune femme, dont vous savez que le père était peintre et qui elle-même va travailler dans son atelier, et qui ici, en 1612-1713, 10 ans ou presque après que Caravage se soit rendu coupable d'un assassinat à Rome, va réaliser en peinture cet assassinat qui est un des grands classiques de ce classicisme début XVIIe siècle, qui est le Judith décapitant le général Holoferne. Le sujet est un sujet de l'un des livres de la Bible, racontant comment le général Holoferne assiégeait la ville de Béthulie, dont la garnison, commandée par le mari de Judith, résiste tant qu'elle peut, et le commandant de la garnison avait été assassiné par Holoferne. Alors Judith se rend incognito dans le camp de l'ennemi, va endormir la méfiance du général Holoferne et lui couper la tête. Bon, l'histoire de Judith est au cœur du travail de Olivia Gentileschi, de Artemisia Gentileschi, d'autant plus qu'on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'une jeune femme violée à plusieurs reprises et dont on pense que ça pourrait être une traduction violente des propres traumatismes vécus par l'artiste. Vous voyez, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'abreuve directement à la source du Caravage, directement, tout en ayant un métier tout à fait différent. Un métier plus précis, plus défini, avec comme une volonté de sculpter les personnages qu'on ne trouve pas du tout dans le Christ à la colonne de la flagellation. Alors, il y en a un qui va adorer Caravage et qui le connaît à Rome, parce qu'il est à Rome d'abord, et puis qui va le connaître quand il s'installe à Naples, et qui va s'en inspirer beaucoup. C'est ici que vous voyez Ribera, d'origine espagnole, qui s'est installé en Italie, a fait toute sa carrière en Italie. D'origine espagnole, il va traiter des sujets qui sont les sujets religieux ou les sujets de la vie quotidienne, peu importe, ou les sujets mythologiques, comme ici, Silène ivre, qui est représenté comme un vulgaire personnage au ventre rebondi, et pour lequel vous voyez que l'artiste n'a aucune attention de type aristocratique, quelle qu'elle soit. Au contraire, l'artiste s'amuse beaucoup, tandis qu'il est entouré de suivants qui sont des... comment on appelle ça, ces personnages ? Des boucs, voilà. Des boucs qui sont en effet à moitié des boucs, car le visage est un visage humain, et qui est un sujet qui sera relativement souvent utilisé. Vous m'excusez pour la couleur, je n'ai pas trouvé et j'ai pas pu faire de photos quand j'y étais suffisamment bonne, il y avait toujours des gens au milieu, pour traiter ce sujet d'Apollon et Marsyas de Ribera. Alors, Ribera, c'est un artiste qu'on a beaucoup au Louvre. On en a beaucoup, mais on l'a mis dans les collections espagnoles. Donc il est complètement au bout de la grande galerie, et en général, les gens vont rarement jusque là-bas. Tandis que là, dans le cadre de l'exposition de Naples, il est au milieu de la grande galerie, et on peut voir ses œuvres sans aucun problème. Alors Apollon, vous savez que Apollon était le dieu de la musique, le dieu des arts. Or, il se trouve que Marsyas va emprunter la flûte de Minerve. Et avec la flûte de Minerve, il prétend être encore plus fort que le dieu Apollon. Alors Apollon ne supporte pas et il va l'écorcher vif. Bon, scène épouvantable. Vous voyez combien le XVIIe siècle affectionne ces scènes de carnage, dont vous voyez ici la traduction à travers l'opposition entre le dieu Apollon et Marsyas, le jeune satyre qui est là en train de hurler. Alors, l'attention mise sur le hurlement est quelque chose d'intéressant, parce que parmi tous les peintres qui vont faire le tour par le musée de Capodimonte, il y en a un qui va adorer ces cris, qui s'appelle Bacon. Et Francis Bacon, on a plusieurs tableaux dont on pense qu'ils ont pu être l'une des origines de la représentation de ce pape hurlant qu'il va multiplier dans les années 1970-1980. Et vous avez là un gros plan sur le visage de Marsyas, qui va être repris par un autre suivant, si l'on peut dire, napolitain aussi, que vous voyez ici, qui est Luca Giordano. Luca Giordano, ce n'est pas un très grand peintre, c'est un peintre gracieux, c'est un peintre décorateur qui fait de jolies choses, et là il va reprendre le thème et la composition de Ribera. Vous voyez que c'est exactement la même chose, simplement il renverse la position d'Apollon, mais qui est traduit de la même façon par un très jeune homme face à un satyre, Marsyas, qui lui est étendu au sol et dont le dieu va étriper l'ensemble du corps. Même chose, vous voyez que le rendu c'est précisé sur le visage, tandis que Giordano est un homme qui aime bien jouer des coloris, que vous voyez ici, le bleu de la sandale contre le corps de Marsyas. Alors, toujours à Naples, cette de Guarino, qui est une sainte Agathe, les saints, vous savez que la piété napolitaine est très vive et enrichie de très nombreuses manifestations de tout genre, notamment celles honorant le saint qui... Comment il s'appelle, saint, zut, je ne l'ai plus. Dont le sang se fige. Voilà, voilà, merci. Alors, cette piété à Naples a donné naissance à d'innombrables tableaux de saints et de saintes, comme Sainte Agathe que vous voyez ici, à laquelle on a arraché les saints. D'où la représentation du tissu que vous voyez ici, mais qui est taché. Voilà, avec du sang que vous voyez, mais de façon extrêmement discrète. Suiveur, peut-être, de Caravage, car là encore, vous voyez le jeu du clair-obscur que l'on peut accentuer quand on fait ce gros plan qui divise le visage presque en deux moitiés égales et qui permet d'en plonger un dans l'ombre et d'en affirmer un autre dans la lumière. Même chose avec Mattia Preti, un Saint-Sébastien astré baroque dans l'ensemble de la composition, qui va jouer de cette lumière plus ou moins élaborée, copiée sur Caravage, et qui pour autant n'a pas du tout la subtilité de celle du maître ancien. Et je vais terminer cette présentation en revenant à Luca Giordano pour évoquer toutes ces processions innombrables qui ponctuent la vie de la Naples de Charles III ou de ceux qui vont habiter le palais à partir du XIXe siècle. Les Bourbons sont chassés du royaume de Naples, on l'a vu, par Napoléon et les Français. Caroline et son mari Murat s'installent, pas pour longtemps. Murat est tué et Caroline part en exil en 1813, si je me souviens bien, ou même 1814 peut-être. Et le palais de Capodimonte va sombrer dans l'oubli, appartenant aux Bourbons théoriquement, mais dans la réalité en partie occupé par les troupes françaises qui vont emprunter de nombreux tableaux qui vont arriver temporairement en France. Vous savez que ça sera un des méfaits des campagnes napoléoniennes qui devront ensuite rendre l'ensemble ou presque des tableaux qu'ils ont pris dans les différents pays. Et il faudra attendre 1860 pour que ce musée soit propriété de la famille régnante qui règne sur l'Italie, la famille de Piémont-Sardaigne des Savoies. C'est cette famille qui va posséder ce palais dans lequel se trouvent autant de chefs-d'œuvre, tandis que les sculptures sont en partie dans un autre musée. Cette famille va en rester propriétaire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le musée va être en partie bombardé et beaucoup de toiles très abîmées pendant la guerre. Des toiles partent chez les nazis, on l'a évoqué pour Danaé, et ensuite il reste dans un état épouvantable pendant de nombreuses années. C'est ainsi que ceux qui venaient à Naples n'allaient pas, ou allaient à peine quelques instants, dans ce musée. C'est la raison pour laquelle il a fait partie des 20 musées italiens pour un appel d'offres à une direction étrangère. C'est ainsi donc que Sylvain Bélanger est devenu le responsable de l'ensemble du palais, qui est derrière nous, sur cette photo du parc devant le palais, qui est en fait un musée, même si on dit que c'est un palais, c'est un musée, il n'a pratiquement jamais servi de résidence royale. Cependant, comme la famille de Savoie avait habité le bâtiment, la restauration d'aujourd'hui a décidé de rétablir les signes royaux qui existaient dans le décor au XIXe siècle. Donc à nous de voir ce que deviendra ce palais et ce que deviendra surtout ce musée dont les œuvres, je pense, ont emporté votre adhésion pour un grand nombre d'entre elles. Ce palais qu'on peut quitter et dont vous voyez la situation admirable, donc sur la hauteur dominant la ville de Naples. Merci à vous et on va. Je vous en prie.
Vous avez fait faire un très bon voyage. Et c'est bien d'avoir choisi plutôt de vous montrer les toiles que nous ne verrons plus à partir du mois de janvier, puisqu'elles retournent au musée. Ce musée, d'ailleurs, a une histoire un peu bouleversée, et c'est bien que le musée du Louvre ait aidé en quelque sorte à le faire connaître. Parce que c'était ça, je pense que c'était ça la volonté.
Absolument.
Alors, je vais prendre une seule question, parce qu'elle est déjà... Ah, hein.
Oui, tout d'abord, merci pour cette présentation.
Je vous en prie.
J'ai une question technique.
Allez-y.
Vous avez utilisé le terme pain à fresque, ou fresque à plusieurs reprises.
Oui.
Et nous ne sommes pas tous des spécialistes, loin de là. Et ce terme a été, le terme fresque, le mot fresque a été galvaudé au fil des siècles pour en perdre un peu la définition. Et est-ce que vous pouvez nous donner l'étymologie,
la définition? Bien sûr, il n'y a aucun problème. À partir du... ça doit être le milieu du 15e. Vous voyez, ça remonte à il y a longtemps quand même. Même le début du 15e. Oui. Et bon. Les artistes ont cherché toujours des surfaces sur lesquelles dessiner ou peindre. Et les surfaces, il y en avait dans les églises, c'était les voûtes. C'était les murs, et dans les églises romanes, je pense à l'une d'entre elles qui est près de Poitiers, dont le nom m'échappe, Saint-Savin, la voûte, on est à fresque, est extraordinaire, et elles ont été follement bien conservées, elles ont été restaurées comme il faut, ce sont des fresques romanes. Fresca, à frais, on peint à secco ou à fresca. À secco, vous peignez sur le mur sec. Ah, c'est une technique. À fresca, vous peignez sur le mur frais. Ah, alors comment on peint sur le mur frais? Quand vous avez vu le dessin de Michel-Ange, avec les hommes, vous avez du dos, là vous avez le grand dessin que je vous ai montré, je vous ai dit, il y a plusieurs feuilles. Il a presque 3 mètres de haut, donc il est plus grand que nous. Quand vous avez un artiste qui veut peindre là-dessus, il va commencer par dessiner. Mais pas là-dessus. Il ne peut pas dessiner là-dessus. Donc il va dessiner, il va prendre une idée de son dessin petit, sur une feuille comme ça. Et puis, il sait qu'il va avoir un espace de 1,50 m. Et donc, comme à l'époque, les feuilles, on ne pouvait pas avoir des feuilles de 1,50 m, on va coller une série de feuilles pour avoir de... Et ensuite, sur ces feuilles-là, on va pouvoir avoir différents types de techniques qui vont permettre de reporter sur le mur où l'enduit a été fait à fresque pour une journée, parce qu'au bout d'une journée il sèche, d'accord? C'est pour ça qu'on parle de giornata, des une journée, et que les feuilles représentent une journée de travail. Voyez? Donc on a plusieurs techniques qui permettent de reporter des éléments du dessin. On enlève la feuille. Et ensuite, avec les élèves qui font la couleur, etc., on y va pour une journée, parce que ensuite ça sèche trop. Voilà. Et ce qui va être très très difficile, et ce qui est le fait des grands artistes, c'est de ne pas faire voir le raccord. Vous voyez, vous passez d'une journée à une autre journée, alors les spécialistes le voient. Voilà. J'ai répondu à votre question ?
Oui, oui. Donc, quand on dit presque pour n'importe quoi, pour tout et n'importe quoi, il faudrait peut-être dire décor peint.
Oui, parce que ça peut être à sec. Oui. Voilà, absolument.
Là, pour les artistes, une seule question. Elle est un peu la continuité de la question sur la fresque, parce que vous avez déjà, je voulais vous remercier pour cette excellente conférence.
Je vous en prie.
En fait, vous avez dit qu'il y avait un peintre qui était l'élève de Colombino.
Oui, oui.
Antonello
da Messina.
Voilà, si. Qui était parti en voyage dans le
oui,
Nord.
Oui.
Et qui a ramené justement le sommet oui. De la peinture à l'huile.
Absolument.
Qui a remplacé oui.
Il est passé par Venise.
Voilà.
Et il a influencé voilà. Giovanni Bellini.
Et moi, ma question, c'était quel peintre lui a donné le secret dans le Nord?
On pense qu'il était dans l'atelier de Van Eyck. Voilà. C'est très amusant tout ça, parce qu'on aime les intrigues, on aime les histoires policières. Il faut faire attention à ne pas raconter trop de bêtises. Voilà. Mais on pense que c'est à peu près juste, et qu'il aurait été dans l'atelier de Van Eyck, où s'élaborait, en tâtonnant, la technique de peinture à l'huile, parce que dans les pays du Nord, ça ne sèche pas comme dans les pays du Sud. Donc c'est la technique. Elle a mis longtemps à s'affirmer. Voilà. Donc on dit souvent encore en conditionnel, il serait descendu et serait passé par Venise, parce que vous voyez, il est descendu par le Rhin, il a franchi les Alpes, et il arrive pratiquement à Venise. Et à Venise, c'est l'époque où on a la dynastie des Vivarini, c'est la fin du 15e siècle. Voilà. Ça doit être à peu près ça. Voilà.
Encore une fois, merci.
Ah, je vous en prie. Merci.